Imaginons un peu la scène. On est dans une commune où un parti détient la majorité absolue.
Ouais, le scénario politique idéal en gros.
Exactement. Le pouvoir total, tranquille. Et là, soudainement, en pleine séance publique, un élu de cette même majorité décide de torpiller un projet porté par son propre camp.
C'est pas commun ça.
Pas du tout. Et le plus fou, c'est qu'il ne s'agit pas d'un grand désaccord idéologique sur, je sais pas, la macroéconomie ou des valeurs fondamentales.
Ah non, on est sur du très concret là.
C'est ça. La rébellion, elle porte sur une toute petite parcelle de terre, un truc grand comme un court de tennis. Plus précisément, 337 mètres carrés au bord du barrage du Riedrom.
Ouais, c'est ultra précis.
Bah, c'est exactement ce qui s'est passé le 27 août 2026 dans la ville de Couvain. La mécanique implacable de la discipline de parti, elle explose en plein vol dès les toutes premières minutes de la réunion.
Et c'est fascinant parce que cette rupture immédiate, ça illustre parfaitement la différence fondamentale entre la théorie politique et la gestion de terrain.
C'est-à-dire.
Ben, sur le papier, le conseil communal de Couvain, il présente une arithmétique qui est hyper simple. Le groupe Unis, ils détiennent une majorité absolue écrasante, ils ont 14 élus.
14, ok, et en face?
Face à eux, l'opposition est fragmentée. T'as le groupe ici avec 8 élus et Écologie ici qui est représentée par une seule élue, Sarah Noël. Donc cette configuration, traditionnellement, ça garantit des séances où tout passe comme une lettre à la poste.
Tu votes en bloc et c'est plié.
Et voilà. Sauf que la réalité hyperlocale, elle obéit à d'autres lois. Les considérations géographiques, les pressions des riverains, ou même les liens familiaux, ça vient complètement court-circuiter la chaîne de commandement du parti.
Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Mais juste avant de plonger là-dedans, faut faire une petite mise au point technique sur nos sources.
Ah oui, c'est important de le préciser.
Et bah oui, parce qu'on se base sur un enregistrement brut de ce conseil. C'est un audio de 2h48 minutes. Et donc, le repérage des voix, l'attribution des propos, ça repose vraiment sur l'identification acoustique.
On se base sur les timbres de voix ou les moments où le bourgmestre Raymond Dougnot appelle les gens par leur prénom.
C'est ça. Donc, on est sur un très haut degré de certitude. Mais on garde en tête qu'il y a toujours une petite marge d'interprétation quand on fait de l'analyse audio pure.
Et c'est une prudence qui est indispensable. Surtout que, franchement, les premières minutes de l'enregistrement, elles laissent pas du tout présager le clash qui va suivre.
Ah bah non, c'est l'ambiance bon enfant.
Totalement. C'est les rituels habituels, on teste les micros, on fait deux ou trois blagues, le bourgmestre installe un climat un peu de bon père de famille. C'est vraiment un sas de décompression administratif.
Mais ce sas, ils veulent en éclat hyper vite. Et là, faut vraiment qu'on soit très clair sur ce qui déclenche le conflit.
Le fameux point sur le barrage.
Ouais, et je veux insister lourdement là-dessus. Le premier grand clash ne porte absolument pas sur le projet global du parc national de l'Entre-Sambre et Meuse.
C'est un point de confusion fréquent, ouais.
Personne ne remet en question la grande idée du parc naturel. Le débat, il est focalisé, mais alors de manière ultra spécifique, sur un projet annexe, une concession pour créer un espace d'accueil au barrage du Riedrom.
C'est là qu'on retrouve nos fameux 337 mètres carrés.
Exactement, 337 mètres carrés destinés à la restauration et à l'attractivité touristique. Et c'est là que Vincent Delivre, un élu de la majorité Unis, donc le parti au pouvoir, prend le micro.
Et il y va pas de main morte.
Mais pas du tout, il dénonce le manque de concertation avec les habitants du coin et il lâche même au passage qu'il y a des menaces juridiques qui cibleraient son propre frère par rapport à ce dossier.
C'est quand même un moment charnière. Parce que, pose-toi la question, pourquoi un élu de la majorité prendrait un tel risque politique en public?
Ben, pour moi, c'est comme le repas de famille qui dérape.
Comment ça, ouais?
Tu vois, t'es invité, tout le monde est d'accord sur le menu, et soudain quelqu'un de la famille se lève et dit que l'entrée est immangeable. Ça crée un malaise immédiat, mais parfois c'est nécessaire pour crever l'abcès.
C'est une super analogie. C'est exactement ça. Dans la politique locale, l'élu, c'est le gérant de la succursale. Il est face à ses voisins, à sa famille, aux citoyens de son quartier.
Et la pression du terrain devient plus forte que la consigne du parti.
Voilà. La survie politique au niveau local, elle exige de répondre à son propre code postal. Donc, il sacrifie la cohésion de son groupe parce que se taire, ça lui coûterait trop cher socialement.
Et je trouve que cette fracture d'entrée de jeu, ça donne vraiment le ton. Ça prouve que la salle du conseil, c'est pas juste une chambre d'enregistrement ennuyeuse. Et on le voit de manière spectaculaire juste après.
Avec le grand écart entre la théorie et la pratique.
Ouais, c'est le passage de la grande vision écologique aux cuves à gaz.
Ah oui, cette transition, elle est assez violente.
C'est lunaire. Tu as le rapport du parc naturel Viron-Hermeton qui est présenté. Donc là, c'est les grands discours, l'auto-évaluation, les plans d'action 2025. On parle biodiversité, on parle mobilité douce.
C'est la vision à 50 ans, c'est conceptuel, c'est beau.
C'est très beau. Et littéralement, le point suivant, c'est le dossier de la rue Sens-Argile.
Et là, retour à la réalité du béton.
Le nez dedans. C'est un projet d'urbanisme hyper concret. 11 nouveaux logements. Et là, les débats s'enlisent sur des détails techniques.
Jean.
L'élargissement d'une voirie que le promoteur a cédé gratuitement, le maintien ou non d'un sens unique pour la sécurité des cyclistes, et surtout, l'installation du cuve à gaz individuel pour ces maisons.
C'est ça la dissonance cognitive de l'administration dont je parle souvent. On applaudit des deux mains un rapport sur la biodiversité, et dans la même heure, on valide des énergies fossiles décentralisées.
Mais comment c'est possible d'avoir un tel décalage ?
Bah, en fait, c'est le droit de l'urbanisme qui veut ça. Le parc naturel, c'est un organisme de réflexion. Il produit des études, il fixe un horizon. Mais il n'a pas le pouvoir de donner ou refuser un permis de construire.
C'est la commune qui a ce pouvoir.
Exactement. Le conseil communal, lui, c'est la machine administrative. Si le projet des 11 maisons respecte toutes les normes urbanistiques en vigueur, ils ne peuvent pas juste dire non sous prétexte que philosophiquement, le gaz, c'est mal.
D'ailleurs, pendant la présentation du parc, plusieurs élus ont fait une remarque là-dessus.
Ils ont demandé quoi, eux ?
Ils ont exigé des preuves d'utilité concrète. Ils voulaient voir de la visibilité sur le terrain. Tu sens pas une sorte de frustration chez ces élus locaux face à ces institutions qui planifient sans jamais couler le béton ?
Oh que si, c'est palpable. L'élu local, il est en première ligne. C'est lui qui se fait engueuler pour le nid de poule ou le sens unique. Donc quand une structure supralocale vient faire de jolis diaporamas, ça agace.
Ils veulent du résultat palpable. Et cette question de la gestion physique du territoire, elle nous amène directement à un autre gros morceau du Conseil.
L'aménagement de l'espace public.
Ouais. Et surtout, à qui appartient cet espace ? Et qui a le droit d'y faire régner l'ordre ?
Ah, le fameux dossier Vigilis.
Voilà. Parce qu'au début, ils enchaînent les points classiques assez vite. Les conventions pour la piscine, le Couvidôme, les écoles. Ils gèrent la mobilité à Pêche, rue de Gonrieux, rue Noiret. Jusqu'ici, tout va bien.
Le train-train administratif.
Et puis... bam, le clivage majeur sur la zone Vigilis autour du Lindbergh.
Et là, on touche à un enjeu fondamental de souveraineté.
C'est clair. Pour expliquer un peu, la demande, c'est d'autoriser des agents de gardiennage privé à faire de la surveillance préventive sur la voie publique.
Sur le trottoir public, oui.
Mais ces agents, ce sont pas des flics. Ils n'ont aucun pouvoir de contrôle d'identité, aucune autorité légale. Et pourtant, on veut leur confier un bout de la sécurité de la rue.
Et c'est l'élu écologique qui s'y oppose, seul contre tous.
Oui, Sarah Noël, elle dénonce la méthode. Elle pointe du doigt le financement privé d'une mission de sécurité publique et surtout, elle craint que ça ne fasse que déplacer le problème.
Ce qui est juridiquement très pertinent. En Belgique, le monopole de la sécurité sur la voie publique, c'est la police. Les vigiles privés, normalement, ils restent dans les supermarchés ou les boîtes de nuit.
Donc les mettre dans la rue, c'est créer une zone grise.
Totalement. L'agent, s'il voit un truc illégal, il peut rien faire d'autre qu'appeler la police. Comme toi ou moi. Son seul pouvoir, c'est son uniforme. C'est la dissuasion.
Moi, ça me fait penser à l'installation d'une fausse caméra de sécurité que les voisins auraient payée eux-mêmes.
C'est-à-dire ?
Ben, ça rassure ceux qui ont payé. Tu dis « Ah, super, Rolling Caméra ». Mais le délinquant, il est pas bête. Il voit la caméra ou le vigile et il va juste faire ses trafics dans la rue d'à côté.
La rue où les gens n'ont pas les moyens de se payer une milice privée.
Exactement. Ça repousse juste le problème chez les moins fortunés. C'est une rupture d'égalité.
Et ce qui est intéressant d'un point de vue analytique, c'est que cette logique de privatisation ou de désengagement, on la retrouve ailleurs dans la même séance.
Tu parles des bâtiments communaux ?
Oui. Presque en parallèle, la commune décide de vendre deux bâtiments rue de la Foulerie, des anciens logements de transit.
Estimés à 125 000 euros et 90 000 euros de mémoire ?
C'est ça. Alors la majorité rassure tout le monde en disant que les occupants actuels ne seront pas mis à la rue. Mais philosophiquement, c'est le même mouvement que Vigilis.
Tu veux dire que la commune lâche du terrain ?
Exactement. Dans un cas, elle délègue la sécurité au privé. Dans l'autre, elle se sépare de son parc immobilier social pour le remettre sur le marché privé. C'est un recul de la maîtrise publique sur l'espace.
Et pourquoi ils font ça ? C'est souvent une question d'argent, non ?
Le budget est toujours le nerf de la guerre au niveau local. Chaque euro compte.
Et justement, en parlant de compter chaque euro, la transition est toute trouvée vers la gestion des finances.
Ah oui, le débat sur la taxe de séjour.
C'est un moment assez incroyable de la Réunion. On parle de la taxe pour la période 2026-2031. Le projet, c'est d'appliquer un tarif d'1 euro par jour pour les camps de jeunesse, genre les scouts.
Et là, l'opposition s'insurge.
Ah oui, c'est la levée de bouclier. Ils trouvent ça scandaleux de taxer les scouts d'un euro par jour. Le débat est super tendu, ça argumente dans tous les sens pour un euro.
Parce que symboliquement, taxer la jeunesse, ça touche à l'image d'une commune accueillante. C'est un débat très idéologique.
Mais là où c'est dingue, c'est le contraste avec ce qui se passe juste après.
La fameuse chaîne de montage bureaucratique.
Voilà. Juste après s'être écharpé pour un euro, ils doivent valider les comptes de 12 fabriques d'églises.
Un exercice d'une lourdeur administrative absolue.
C'est à la chaîne, on valide, on valide, on valide. Jusqu'à ce que, soudainement, une alerte hyper concrète soit lancée concernant l'église de Presgallo.
Qu'est-ce qui se passe avec cette église?
Eh bien, il y a littéralement des gravats qui tombent du bâtiment. Ça pose un risque de sécurité imminent pour les passants. Des pierres qui tombent sur la tête des gens, quoi.
Et ça, ça interrompt la routine comptable.
Heureusement. Mais moi, ça me questionne. Est-ce que cette bureaucratie écrasante, le fait d'approuver 12 comptes à la suite, ça rend pas les élus un peu aveugles aux réalités physiques?
C'est ce qu'on appelle la cécité bureaucratique. T'es tellement noyé sous les tableaux Excel et les validations formelles que tu perds le contact avec l'objet physique que tu finances.
Ils voient des lignes de budget, pas des pierres qui s'effondrent.
Exactement. Et d'ailleurs, ce décalage dans la rigueur de traitement, on l'observe aussi de façon très tendue sur les fameux points fantômes.
Ah, le dossier Roi Soleil.
Oui.
Raconte un peu comment ça s'est passé, cette séquence. En fait, c'est l'apparition à l'ordre du jour des points 29 à 34. Sauf que ces points n'étaient pas sur l'ordre du jour public diffusé avant le Conseil.
Donc, personne n'a pu s'y préparer.
Personne. Et parmi eux, il y a ce dossier Roi Soleil. C'est une affaire judiciaire majeure pour la commune. Le collège débarque et dit en gros « Faut qu'on vote ce soir pour faire appel d'une décision de justice, c'est l'urgence absolue. »
Ce qui met l'opposition dans une colère noire.
Évidemment. Ils disent « Mais on n'a aucune info, comment on peut voter de façon éclairée là-dessus »
Et c'est là que tu vois l'usage politique de la bureaucratie. Le collège utilise l'urgence légale, l'échéance du tribunal, comme une arme.
En mode « Si on vote pas, on perd nos droits, donc votez. »
C'est ça. Ça force l'opposition à valider à l'aveugle ou à passer pour des irresponsables. C'est un décalage dingue par rapport au temps de réflexion exigé pour l'euro de la taxe coût.
Ça pose quand même une vraie question sur les limites du pouvoir d'un conseil communal. Jusqu'où ils peuvent débattre? Est-ce qu'ils sont là juste pour les taxes et les églises qui s'écroulent? Ou est-ce qu'ils peuvent aborder des sujets de société plus larges?
La question des droits humains, notamment.
Oui, on arrive à la motion sur les visites domiciliaires. Et là encore, c'est Sarah Noël, l'élue écologie J, qui monte au front.
Elle dépose une motion contre un projet fédéral.
C'est ça, un projet de loi du gouvernement qui permettrait des visites au domicile de personnes en séjour irrégulier. Elle s'y oppose fermement.
Et quels sont ses arguments?
Elle avance des arguments lourds, l'inviolabilité du domicile, le respect des droits fondamentaux, et elle rappelle même que le Conseil d'État a émis de sérieuses réserves sur ce projet fédéral.
Et l'objectif, c'est que la commune de Couvin prenne officiellement position contre l'État fédéral?
Voilà. Et la réponse de la majorité portée par le bourgmestre Dougnot, elle est redoutable d'efficacité.
Il refuse le débat, c'est ça la...
Il ne rentre même pas dans le fond, il dit juste « ce n'est pas une compétence communale, point ». Le collège en a discuté, ils ont décidé de ne pas changer de position, fin de l'histoire.
Ce qui est une pirouette procédurale classique.
Mais du coup, sans juger si la motion d'écolo était justifiée ou si le refus de la majorité était moral, on observe les deux stratégies. D'un côté, on utilise la commune comme une tribune politique nationale.
Comme un bouclier moral, oui.
Et de l'autre, on se retranche derrière le règlement pour éviter un débat clivant.
C'est exactement ce que ça dit de la politique locale. Si le bourgmestre accepte le débat, il transforme son conseil en succursale du Parlement. Il risque de fracturer sa majorité sur un sujet national.
Comme avec le rail de Rome, plutôt.
Exactement. Il veut éviter ça à tout prix. Donc il dit c'est hors jeu, on n'a pas la compétence. Mais le revers de la médaille, c'est que ça donne une image d'impuissance.
Les citoyens se disent, bah, à quoi ils servent, alors?
Voilà. Si la commune ne peut pas se prononcer sur une loi qui va impacter les gens qui vivent sur son territoire, elle sert à quoi?
Et cette crise existentielle, cette impression de tourner en rond, ça provoque un vrai moment de métadébat un peu plus tard dans la soirée.
Les fameuses questions d'actualité.
Oui, un élu de la majorité prend carrément la parole pour critiquer le principe même de ces questions. À l'origine, le bourgmestre avait instauré ça pour favoriser la démocratie.
Et la critique, c'est quoi, Noira?
L'élu dit qu'en gros, ça sert juste à l'opposition pour se faire de la pub. C'est devenu un espace de visibilité théâtrale plutôt qu'un outil pour régler des vrais problèmes.
Ah, quand une assemblée commence à débattre de la façon dont elle débat, c'est mauvais signe. C'est souvent le symptôme d'une paralysie de l'action.
Surtout que pendant qu'ils discutent de la longueur de leurs propres échanges, la vraie nature, elle frappe à la porte. Et de manière assez flippante...
La question des incendies.
On parle d'enjeux climatiques lourds. Couvain, c'est couvert à 52% de forêt. Donc écologique demande très concrètement comment la ville se prépare au risque d'un incendie majeur.
C'est une vraie question de sécurité civile.
Il propose même de créer un groupe de travail transversal. Et la majorité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle temporise. Elle dit « on s'en remet au DNF, donc le département de la nature et des forêts, et à la région ».
C'est le syndrome de la patate chaude institutionnelle.
Tu peux m'en dire plus ?
C'est flagrant ici. Face à un risque colossal, comme un feu de forêt, la commune se sent dépassée. Organiser un groupe de travail, c'est prendre une responsabilité. Donc le réflexe, c'est de se défausser sur les échelons supérieurs. On attend que la région gère.
Et ce qui est fou, c'est que cette même logique de patate chaude, on la retrouve juste après sur un sujet beaucoup moins dramatique, mais tout aussi galère au quotidien.
Les ratons laveurs.
Les fameux ratons laveurs. C'est une espèce invasive, ça détruit les poubelles, ça ruine les toitures, les citoyens n'en peuvent plus.
Et ils demandent à la commune d'intervenir.
Logique, c'est le pouvoir de proximité. Mais au conseil, c'est le grand vide intersidéral. Personne ne sait qui doit s'en occuper. Le DNF, la commune, la région, les institutions se renvoient la balle.
C'est l'impuissance politique illustrée.
Totalement. Ça dérive même en blague. Quelqu'un évoque une vieille prime française pour les queues de rats musqués, tout le monde rigole un peu jaune. Mais au final, le citoyen, il est tout seul dans son jardin avec son problème.
C'est exactement ça. Le citoyen découvre un nuisible, il appelle la mairie n'a pas les compétences, elle dit d'appeler l'agence forestière. L'agence forestière n'a pas de mandat régional, donc elle fait rien. Boucle infinie.
Et cette impuissance, ce sentiment d'abandon, ça devient carrément explosif quand on quitte la forêt pour regarder ce qui se passe dans le centre-ville.
Ah oui, le cœur de la cité. Là, les tensions sont beaucoup plus fortes.
On passe aux questions de propreté et de sécurité urbaine. Le groupe ici met le sujet des foires de Couvain sur la table.
Et le bilan est mauvais, je crois.
C'est un carnage logistique selon l'opposition. Colère des maraîchers, communication défaillante de la commune, des emplacements qui restent vides. Et même des vols d'électricité sur les bornes de la ville.
Ça, c'est un symptôme classique. Quand une commune n'arrive plus à organiser sereinement ses propres événements festifs ou commerciaux, c'est que la maîtrise de l'espace public est en train de lui échapper.
Et c'est le prélude parfait pour le point le plus lourd de la soirée concernant l'urbanité Philaol, la place de Maribourg.
Un autre point soulevé par le groupe ici, c'est ça ?
Oui, et le tableau est sombre. Saleté, dégradation et surtout une occupation constante de l'espace public par des groupes qui génèrent un fort sentiment d'insécurité.
On revient un peu à la thématique de la zone vigiliste de tout à l'heure.
Exactement, mais avec une approche totalement différente. Au lieu de juste réclamer plus de flics, une conseillère d'ici fait une analyse super intéressante. Elle relie directement les gens qui traînent sur la place à la présence de marchands de sommeil juste à côté.
Ah, ça c'est de l'intelligence politique collective.
Tu trouves ?
Oui, parce qu'elle dépasse le symptôme. Le symptôme, c'est les marginaux sur le banc. Mais la maladie, c'est l'habitat indigne. Si tu vires les gens de la place sans régler le problème des taudis, ils reviendront le lendemain.
C'est un vrai écosystème. La misère privée déborde sur l'espace public.
Exactement. Et qu'est-ce que la majorité répond à ça ?
Mais c'est là que le droit devient cynique. La majorité avoue son impuissance. Ils expliquent qu'ils ont les mains liées juridiquement. Ils ne peuvent pas forcer la porte d'un logement pour contrôler sa salubrité si le locataire n'a pas déposé plainte.
Ah, le fameux paradoxe de l'inviolabilité du domicile.
Mais c'est terrible. En gros, j'ai envie de poser la question, est-ce que cette loi protège vraiment le locataire vulnérable ou est-ce qu'elle offre carrément l'immunité au marchand de sommeil ?
Dans ce cas précis, elle protège le marchand de sommeil, c'est évident. Le législateur a pensé cette loi pour un citoyen lambda. Mais le locataire d'un marchand de sommeil, il est ultra précaire. Sans papier, surendetté, parfois sous emprise.
Il va jamais oser porter plainte.
Jamais. S'il parle, il se retrouve à la rue. Donc, le marchand de sommeil mise sur la terreur de ses victimes et la commune, de son côté, refuse de forcer les verrous légaux par peur des procès.
Donc on laisse pourrir la situation.
Voilà. Et la misère invisible, à l'intérieur des murs, se transforme en insécurité visible sur la place du village.
C'est glaçant quand on y pense. Après ce moment très lourd, le conseil amorce doucement sa fin de séance. On redescend sur des problèmes plus, disons, gestionnaires.
Le retour au quotidien administratif.
On parle du bilan des camps de jeunesse de l'été.
Ah, ce qu'ils voulaient taxer à 1,06€.
Les mêmes. Donc on fait le bilan. Il y a du positif, genre les achats en circuit court. Et il y a les tracas habituels. Le bruit, les plaintes des riverains, les soucis à la piscine.
Du grand classique.
Et la conclusion, c'est on va faire une réunion en septembre pour analyser les données.
C'est la boucle de la politique locale. Chaque année, tu évalues, tu ajustes à la marge, et l'été suivant, on recommence.
Et ça se termine par un feu roulant d'informations balancé par le bourgmestre. On passe des caméras de surveillance au nouveau radar au projet de parc canin jusqu'à un petit souci d'insalubrité près du cinéma.
C'est le flux continu de la gestion. Ça donne le vertige, non ?
Franchement, oui. Surtout quand tu prends du recul sur l'ensemble de l'enregistrement.
Si on devait faire une synthèse de tout ce qu'on a vu, tu dirais quoi ?
Je dirais qu'on a voyagé. On a commencé avec une rébellion inattendue sur un bout de terrain de 337 mètres carrés aux rues de Rome.
La fin de l'illusion de la majorité absolue face aux réalités du terrain.
Ensuite, on a vu la commune se délester de sa souveraineté spatiale, que ce soit via des vigiles privés ou la vente de logements. On a vu le grand écart financier entre la bataille pour 1 euro chez les scouts et l'indifférence face à une église qui s'effondre.
Sans oublier la motion sur les visites domiciliaires.
Oui, le test des limites du pouvoir communal face aux enjeux de droits humains, balayés par une procédure. Puis l'impuissance face au climat et aux ratons laveurs.
Pour finir sur l'impasse dramatique des marchands de sommeil.
C'est dense. Et ça m'amène à une réflexion finale que j'ai envie de partager parce que je trouve ça fascinant.
Je t'écoute.
Aujourd'hui, on se passionne tous pour les grandes élections nationales ou américaines. On suit les débats présidentiels comme des matchs de foot.
C'est le côté spectaculaire de la politique, oui.
Mais ces grands débats, ils semblent souvent totalement déconnectés de notre vie de tous les jours. Et en disséquant ces 2h48 du Conseil de Couvain, je me dis que le véritable pouvoir...
Pouvoir d'impact direct.
Voilà, le pouvoir d'améliorer la qualité de vie, de sécuriser une rue, de tolérer ou non l'exploitation de la misère, bah ce pouvoir-là, il se joue presque incognito.
Loin des caméras.
Exactement. Il se joue un jeudi soir, dans une salle communale que personne ne regarde, à débattre de l'installation d'une cuve à gaz ou d'une taxe d'1 euro. Et c'est peut-être là, au fond, que se trouve le cœur battant de la vraie politique.